Parlons d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. C'est peu de dire qu'une fébrilité certaine règne parmi les 3 millions d'Européens qui vivent au Royaume-Uni avec la possibilité d'un no deal, l'absence d'accord sur le Brexit et donc l'absence de garantie sur leurs droits. C'est la même inquiétude qui ronge les 1,2 million de Britanniques qui vivent en Europe. À Prague, ils sont de plus en plus nombreux à demander un passeport tchèque pour au moins garantir leur citoyenneté européenne et leur droit à la libre circulation au sein de l'UE. Alexis Rosenzweig les a rencontrés.
Traducteur installé à Prague depuis une quinzaine d'années en tout, Andrew vient tout juste d'entamer les démarches pour obtenir un passeport tchèque.
Moi, j'y avais jamais trop réfléchi avant, mais bien entendu que le Brexit n'ayant pas d'autres nationalités de l'Union européenne, j'ai commencé à réfléchir et pour des raisons d'abord pragmatiques, je me suis dit ce serait pas mal d'avoir la citoyenneté tchèque.
Des examens de langue prévus ?
C'est la première chose à accomplir, on m'a dit, c'est de passer le test de langue tchèque, ce qui est un peu compliqué parce que on m'a dit que le problème c'est qu'il y avait une longue attente, les centres de test sont surchargés. À Prague, il faut attendre plusieurs mois.
Est-ce qu'on vous a dit que c'était à cause des citoyens britanniques ?
On me l'a fait comprendre, sans vraiment le dire comme ça. On m'a conseillé de lui un numéro d'appel auquel je n'ai pas encore appelé, où on me dira si dans d'autres centres en province, ça pourrait être plus rapide, ce qui paraît-il est le cas.
D'autres sujets de Sa Majesté installés ici ont davantage anticipé et ont déjà un passeport tchèque en poche. C'est le cas depuis avril pour David, un prof d'anglais qui vit à Prague depuis 20 ans.
Ça ne m'a pas coûté très cher, peut-être 6 000 ou 7 000 couronnes tchèques. Ça fait peut-être 280 euros en tout. Quand je vois dans les journaux que, par exemple, ceux qui ont demandé la nationalité allemande se félicitent de n'avoir payé que 1 200 euros, je pense que j'ai fait une bonne affaire en plus.
L'hymne tchèque a retenti à la mairie lors de la petite cérémonie officielle de naturalisation de David. Au printemps dernier, il était surtout entouré par des citoyens de l'ex-URSS, eux aussi en demande de passeport tchèque. Mais depuis plusieurs mois, la proportion de ressortissants britanniques est en hausse, et ce, même si le Parlement tchèque vient de voter une loi spéciale pour leur garantir, au moins provisoirement, les droits dont ils bénéficient actuellement en tant que citoyens de l'Union européenne. Une loi baptisée « l'ex-Brexit », présenté à Prague par le ministre de l'Intérieur, Jan Hamáček.
Cette loi assure aux citoyens britanniques résidant sur le territoire tchèque le maintien de leurs droits dans 18 domaines différents jusqu'à la fin de l'année prochaine. Nous attendons du Royaume-Uni que les droits des citoyens tchèques sur son sol soient garantis de la même manière. C'est ce qui a motivé la rédaction de ce nouveau texte.
Emploi, permis de séjour, sécurité sociale, autant de domaines garantis par cette l'ex-Brexit, mais seulement jusqu'au 31 décembre 2020. Donc pour certains des 8000 Britanniques installés en Tchéquie, il vaut mieux prendre les devants, d'autant que Londres, comme Prague, autorise la double nationalité. Et si d'aventure il fallait faire un choix, il serait relativement rapide pour David, qui est, précisons-le, d'origine écossaise.
C'est une décision qui ne serait pas banale, mais plutôt sentimentale, parce que c'est une chose qui fait partie de votre identité. Mais j'ai vécu davantage d'années à l'étranger qu'au Royaume-Uni, et s'il me fallait renoncer à un passeport maintenant, je dirais, allez-y, reprenez mon passeport britannique. Je suis aussi conscient et très content que mon nouveau passeport tchèque me permette d'exercer mon métier de prof dans tous les pays de l'Union européenne. Donc c'est la liberté.
Quant à Andrew, sa future naturalisation va au-delà des soucis administratifs qu'elle permet de régler.
Évidemment, pour moi, c'est un passage plus important que simplement administratif. Ça fait déjà longtemps que j'habite ici. Je suis très bien intégré à la société tchèque, mais je ne me suis jamais particulièrement intéressé à la vie publique tchèque. Pour moi, le fait de devenir tchèque, c'est un peu l'occasion de m'y intéresser davantage, y compris à toute la culture du pays.
L'occasion également pour certains de s'intéresser à la politique tchèque, avec pour ces nouveaux citoyens la possibilité de voter aux élections européennes au mois de mai prochain.
Olé, over Europe, people are getting ready to vote in the European elections in May.
We need to start engaging young people into European politics.
It's important to vote because it's our right. And if we stop voting, maybe in the future we won't be able to.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Frédéric.
Le compte à rebours est lancé pour les élections européennes qui auront lieu dans un peu moins de 3 mois maintenant. Même si la campagne n'est pas encore officiellement lancée, une chose inquiète déjà Bruxelles, le futur taux de participation. Car tout laisse à penser, Eve, que l'abstention va encore battre des records, surtout du côté des plus jeunes.
Et selon un sondage IFOP réalisé en février en France par le JDD, 74% des 18-24 ans annoncent qu'ils ne voteront pas en mai contre 55%, toutes classes d'âge confondues. Et si ces chiffres vous affolent, eh bien sachez qu'ils sont plus ou moins proches des chiffres officiels de l'abstention en 2014, qui était de 73% chez les 18-35 ans cette fois.
Et toutes les idées sont donc bonnes pour aller chercher les jeunes où ils sont, pour les convaincre d'aller voter, et ça se passe sur le net.
C'est aussi difficile de passer à côté d'un drôle de personnage sur les réseaux sociaux, avec ses collants bleus, son slip doré, ses baskets bicolores, son tricorne un peu ringard et ses poses assez ridicule, il faut le dire, devant les institutions bruxelloises, c'est Captain Europe, un super-héros qui a un super-pouvoir qu'il brandit à chaque occasion, l'Union européenne, bien sûr, dont il fait fièrement la promotion.
Et ce n'est pas la première fois que ce personnage apparaît dans le débat public.
Non, les médias se sont rués sur ce jeune homme qui assure être pro-européen, mais n'avoir aucun lien avec les institutions et en aucun cas appartenir à une campagne pilotée par l'Union européenne. Pourtant, il s'inspire lui-même d'un personnage imaginé par Bruxelles au moment de la création de l'euro dans les années 90. Et il y a quelques mois, ce jeune européen passionné a décidé de redonner vie au justicier à la cape étoilée sur Twitter en prenant à rebours l'euroscepticisme ambiant. Alors évidemment, la série de photos exhumé du net a fait beaucoup rire, un peu râler aussi, il faut dire, du côté des élus d'extrême droite qui parlent de la bouffonnerie enfin assumée de l'UE. Reste que son apparition dans cette pré-campagne montre bien la difficulté que rencontre l'Europe à interpeller les jeunes et à les inciter à aller voter.
Alors, quelles sont justement les initiatives mises en place cette année par le Parlement européen ?
Alors, on peut pas dire qu'on croule sous la nouveauté et les sollicitations. Un site internet a été mis en place, cette fois-ci Je vote, qui liste les événements prévus en Europe et propose aux électeurs de faire la promotion de leur intention de voter dans leur entourage. Pas sûr que le site, plutôt sobre et peu interactif, marque vraiment des points auprès des jeunes. En marge du site, 27 vidéos nous présentent des jeunes européens qui racontent pour quelle Europe ils souhaiteraient voter cette année. Des vidéos publiées l'été dernier et qui comptabilisent à peine quelques centaines de vues.
Et du côté des associations, on essaie d'innover aussi pour convaincre les jeunes de voter.
Comme par exemple l'organisation Vote et Vous, qui va bientôt lancer un site s'inspirant des applications de rencontres pour calculer la compatibilité des électeurs avec les différents partis qui présentent des candidats. La même chose sera déclinée dans plusieurs langues et le tout relié sous le réseau Vote Match Europe. Autre campagne lancée sur les réseaux sociaux ce mois-ci par la Maison de l'Europe, des phrases choc prononcées par des députés européens et accompagnées du slogan « Ne laisse pas les autres choisir ton député européen ».
Et puis enfin, du côté des partis politiques, on mise sur le rajeunissement des candidats.
Il y a clairement cette année une volonté de renouveler l'offre générationnelle. En France, la moyenne d'âge des têtes de liste ne dépasse pas les 35 ans. François-Xavier Bellamy pour les Républicains, 33 ans. Manon Aubry, La France Insoumise, 29 ans. Yann Brossat au Parti Communiste Français, 38 ans. Jordan Bardella, Rassemblement National, 23 ans. On verra bien si ça marche.
Merci Eve Minot, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Que s'est-il passé dans le commissariat d'Omonia à Athènes ? Quel enchaînement a conduit à la mort d'un homme de 34 ans, le Nigérian Ebuka Mamansoubek ? Un collectif de femmes dénonce aujourd'hui une bavure policière. En Grèce, Charlotte Stivenard.
Dans une interview donnée à la télévision grecque Antenna, la compagne du Nigérian mort dans le commissariat d'Omonia montre des photos de leurs deux enfants sur son portable, un nouveau-né et une petite fille. Cet homme de 34 ans vivait depuis une dizaine d'années en Grèce, selon l'avocat de la famille, Andreas Spiropoulos. Il explique qu'il avait déjà été arrêté auparavant pour trafic de drogue sans jamais avoir été condamné pour autre chose que pour consommation personnelle. Mais cette dernière arrestation, il y a un mois, lui aura été fatale. Après la disparition d'Ebuka Mamansoubek, un vendredi matin, sa compagne affirme l'avoir cherché pendant tout le week-end dans différents commissariats sans obtenir de réponse. C'est ce que confirme son avocat qui a joint spécifiquement les policiers d'Omonia le dimanche. Or, selon lui, c'est seulement le lundi, lorsqu'il a rappelé qu'on l'a informé du décès du jeune homme 3 jours auparavant. Selon un communiqué de la police, quelques heures après son arrestation, Ebukama Mansoubek aurait perdu connaissance avant d'être déclaré mort par le personnel du SAMU appelé en urgence. Sa compagne remet en cause cette version des faits. Elle affirme que lors de précédentes arrestations, il était déjà revenu de ce même commissariat avec des marques sur le corps. La police affirme que selon l'autopsie, il n'y aurait aucune trace d'abus. On attend désormais les résultats des examens toxicologiques qui devraient arriver dans les prochains jours, selon la police. 2 manifestations à l'initiative d'organisations de lutte contre le racisme ont rassemblé plusieurs centaines de personnes et ont donné lieu pour l'une d'entre elles à des affrontements avec la police. Par le passé, le commissariat d'Omonia s'était déjà fait connaître pour des violences pratiquées en son sein contre des détenus d'origine étrangère.
Après la fin des combats qui ont opposé la guérilla albanaise de Lucheka et l'armée serbe, 10 ans après la déclaration unilatérale d'indépendance, le Kosovo mise sur les nouvelles technologies pour relancer la croissance. Alors que les jeunes émigrent massivement pour trouver du travail, quelques entrepreneurs et des fondations veulent développer une nouvelle économie appuyée sur l'intelligence artificielle et Internet. Reportage à Pristina de Laurent Gélin.
Au Kosovo, le chômage touche officiellement 45% de la population active et 45% des 2 millions d'habitants du petit pays vivent sous le seuil de pauvreté. Beaucoup de jeunes prennent donc le chemin de l'exil vers l'Europe occidentale une fois leurs études terminées. Mais depuis quelques années, le secteur des nouvelles technologies connaît un développement remarquable. Mergim Sahani est le fondateur de Girafa, un moteur de recherche en albanais, qui propose plusieurs plateformes vendant sur le net toutes sortes de produits.
J'ai vécu 11 ans aux États-Unis. Je suis allé à l'école là-bas. J'ai travaillé pour différentes entreprises, mais à un moment, j'ai réalisé que je voulais faire plus. J'ai pensé que je devais laisser ce que j'avais construit aux États-Unis. Et en 2 semaines, j'ai tout vendu, ma voiture et tout ce que j'avais, pour venir fonder cette entreprise, avec l'idée et l'ambition de construire l'économie Internet de la région.
Depuis les guerres des années 1990, les Balkans ont mauvaise presse, la région est déprimée économiquement et coupée par des frontières qui rebutent les investisseurs et les grandes multinationales. Sans compter que beaucoup d'États ne reconnaissent toujours pas l'indépendance du Kosovo. C'est pourtant cet isolement qui fait aujourd'hui la force des entrepreneurs comme Mergim Sahani.
Amazon ne livre pas ici, Google ne soutient pas la langue albanaise, vous ne pouvez pas devenir un YouTuber ici, vous ne pouvez pas profiter des nouvelles technologies, les Balkans sont une zone négligée par les acteurs mondiaux de l'Internet, ce qui offre aussi des opportunités pour faire des choses du point de vue du business.
Fondée en 2014, Girafa affiche des taux de croissance insolents et vient juste de se lancer dans la production de séries sur le modèle de Netflix. Le tout grâce à une équipe très jeune.
L'âge moyen de notre équipe tourne autour de 24-25 ans. La moitié de ces gens sont des actionnaires de l'entreprise. Ce sont eux qui participent à l'expansion de l'entreprise, dont le chiffre d'affaires double chaque année depuis 4 ans. Et vous avez beaucoup de gens intelligents ici. Ils sont capables de tout faire. C'est difficile, mais les jeunes ici ont un ingrédient secret. Ils ont très faim. Et cela fait toute la différence.
La société civile du Kosovo tente aussi de préparer le futur. Chaque année, la fondation Benevet organise une grande compétition de construction de robots dans 130 écoles primaires et elle accompagne les jeunes qui souhaitent valoriser leurs compétences techniques sur le marché du travail. Lek Zerka est le directeur exécutif de cette organisation non gouvernementale.
Nous avons 2 jeunes de 17 ans qui ont fondé leurs propres entreprises grâce aux compétences acquises à Benevet. Chaque année, nous avons environ 500 étudiants par centre. Si nous avons 10 centres dans les années à venir, cela nous donnera 5000 individus par année, soit 50 000 personnes en 10 ans. C'est une petite armée. Si 1% d'entre eux devient des entrepreneurs à succès, cela sera un très bon résultat.
Au sein de la Fondation Benevet, la formation aux nouvelles technologies commence presque dès le berceau. Dans les locaux de l'organisation installés sur les hauteurs de Pristina, dans des immeubles tout juste sortis de terre, Une dizaine d'enfants sont en train de bricoler sous l'œil attentif de quelques adultes. Mina a 8 ans, mais elle parle déjà un très bon anglais.
Nous construisons des robots grâce à des plans et ensuite nous les programmons. Nous avons des instructions à suivre et quand nous les suivons, nous avons généralement des points. À la fin de la semaine, nous comptons les points. Ensuite, nous présentons les robots à nos parents.
Depuis 2014, les centres de l'organisation mettent à disposition de tous ceux qui le veulent des espaces de travail où des ordinateurs sont accessibles, mais aussi des imprimantes 3D et des ateliers d'électronique.
L'idée de nos premiers cours ici à Bonnevet, ce n'est pas seulement d'inculquer des valeurs techniques, mais aussi de développer les compétences personnelles des enfants de 5 ans et plus, comme l'empathie, la collaboration, le travail d'équipe. Nous les poussons à s'exprimer, à être créatifs, à critiquer leurs propres décisions, à poser les bonnes questions et aussi les mauvaises, car il n'y a pas de mauvaises questions. Nous essayons de mélanger les classes avec 4 filles et 4 garçons. L'égalité des genres est une partie importante de notre philosophie. Nous construisons les nouvelles générations du Kosovo.
Le chemin sera encore long et semé d'embûches, mais qui sait, le développement des nouvelles technologies permettra peut-être aux nouvelles générations de vivre et de travailler au Kosovo, le pays le plus jeune d'Europe.
Cartographier une ville, non pas d'après ses monuments, mais d'après ses odeurs. C'est le projet tout à fait instructif du célèbre parfumeur turc Vedat Ozan, une manière de faire sentir les bouleversements de la mégapole à Istanbul, à Nandlaouar.
Que sent une mégapole comme Istanbul, qui s'étale d'est en ouest sur près de 300 km et où vivent au bas mot 15 millions d'habitants? Vedat Ozan, célèbre parfumeur, écrivain, professeur d'université, se pose sans cesse la question quand il arpente et hume les rues de sa ville natale. Bien sûr, il n'a pas une réponse, mais un bouquet de réponses qui varie dans l'espace et de plus en plus dans le temps. À ceux qui sollicitent son flair, l'expert répond en dessinant une carte mentale d'Istanbul, une carte de ses odeurs. Prenez Topane, par exemple, le quartier de la rive européenne à deux pas du pont de Galata. Il y a une vingtaine d'années, quand il s'y promenait, Vedat Ozan y décelait encore l'odeur de fer forgé émanant des petits ateliers où l'on travaillait ce métal. Aujourd'hui, pour un nez avisé, Topane sent la friture et le café moulu. C'est l'odeur de la gentrification qui transforme le quartier. Un peu plus loin sur le Bosphore, les rues de Beşiktaş exhalent les senteurs des tilleuls qui survivent, on ne sait trop comment, dans ce quartier central pris d'assaut par les promoteurs. Encore plus haut, le long du détroit, sur une rive et sur l'autre, Kandili, Beykoz, Bebek ou Emirgan charrient des effluves marines, une rareté dans une ville qui vit pourtant entre deux mers. Vedat Ozan regrette d'ailleurs que le quartier de son enfance, Sarıyer, lui aussi voisin du Bosphore, perde un à un ses pêcheurs et donc ses odeurs de poissons. Ailleurs, le temps et l'urbanisation n'ont pas encore fait œuvre de grands désodorisants. Le marché aux épices sent toujours le poivre, le safran, la cannelle, la menthe ou la coriandre. Le quartier historique de Fatih sent toujours, par endroits, l'eau de Cologne citronnée, que Vedat Ozan considère comme le parfum national turc. D'autres, comme Beyoğlu, adaptent leur senteur au nouveau profil des touristes. Le bois de oud des parfums bon marché et les arômes de narguilé se répandent peu à peu dans le quartier de la place Taksim, qui plaît tant ces dernières années aux touristes des pays du Golfe. D'autres arrondissements, enfin, n'ont pas encore d'odeur caractéristique, aucune, du moins, qui chatouillerait les narines du parfumeur Vedat Ozan. Ils sentent, comme tout le reste d'Istanbul, les gaz d'échappement d'une des mégapoles les plus embouteillées du monde.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Guillaume Ploquin. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast, et sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute de RFI.